Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Histoire au quotidien. Nous continuons notre série sur la gallo-romanité. Nous avons vu l'économie, nous avons vu les voies romaines, nous avons vu l'organisation du territoire. Tout cela, c'était effectivement dans des outils de la romanisation. Mais s'il y en a un plus que d'autres qui symbolise à lui seul la romanité, ce sont les aqueducs, qui vient donc du latin aqua, eau, ductae, conduite. Et cet édifice est tellement représentatif de la romanisation qu'un certain Goscinny, dans une BD connue, celle d'Astérix le Gaulois, met dans la bouche d'un chef justement gaulois cette phrase « Un aqueduc, ça fait romain !» Sur le territoire de la Gaule, on en répertorie pas moins de 158. C'est dire le rôle que ces édifices ont joué dans l'urbanisation à la romaine sur le territoire gaulois. Ce que confirme Frontin, qui pense d'ailleurs, on pense qu'il est né en Narbonnaise et qu'il fut plusieurs fois consul, il dit cette phrase « Ces édifices, parlant justement des aqueducs, sont la principale marque de la grandeur romaine. » Dans le sud de la France, on en trouve à Vienne, à Aix, à Arles, à Vaison, à Fréjus, à Toulouse et bien sûr à Nîmes. Voyons justement la construction de cet édifice. Et ce n'était pas simple. Il fallait d'abord commencer par trouver une source qui corresponde aux critères d'utilisation. Le choix de la source dépendait de plusieurs facteurs comme la distance, la nature des obstacles à franchir, la hauteur de la source, son débit et bien sûr sa pureté. Concernant l'aqueduc de Nîmes, il apparaît que la fontaine d'Eure au pied du Zès, l'antique Ousetia, qui est d'ailleurs un ancien poste de défense gallo-romain, un castrum, offrait les meilleures possibilités à tous les points de vue. Ce qui prouve qu'une étude très sérieuse avait été entreprise quant au choix de la source. L'eau de la fontaine d'Eure s'avère en effet tout à fait propre à la consommation et offre surtout, en plus, un débit pérenne et important. Elle se trouve à vol d'oiseau à 20 km de son lieu de destination. Donc, il fallut aux ingénieurs calculer un trajet d'environ une cinquantaine de kilomètres et pour mieux s'assurer de la régularité de l'écoulement en direction de Nîmes, les fontainiers ont commencé d'abord par mettre en place des bassins de dérivation pour mieux contrôler le débit. Car un débit trop important aurait pu fragiliser l'édifice. Ensuite, il fallait calculer une pente. Et le calcul de la pente était primordial, car l'eau, si elle coulait trop vite, encore une fois, pouvait encore une fois fragiliser l'édifice. L'aqueduc de Nîmes, avec un parcours de 50 km, a une pente moyenne, écoutez bien, de 24 cm au kilomètre, soit 2,4 cm pour 100 mètres. C'est quelque chose de remarquable. L'eau était conduite grâce à un spécus, une conduite, d'une hauteur de 1,80 m qui pouvait d'ailleurs permettre à une personne debout de s'y déplacer pour d'éventuelles réparations ou pour le curage. La conduite était nimbée d'un conduit spécial pour en assurer l'étanchéité et éviter que l'eau ne prenne un mauvais goût. Pline, l'ancien, nous en donne d'ailleurs une composition de cet enduit rougeâtre. Il était, dit-il, fait de chaux de vin, de lait de figue et de graisse de porc. Les aqueducs aboutissaient généralement, enfin tout le temps, sur des castellums qui étaient en fait des répartiteurs d'eau. Celui de Nîmes permettait à répondre à trois objectifs, on va dire irriguer les fontaines publiques, les thermes, mais également les particuliers, riches propriétaires et artisans tanneurs. Il est à noter que seuls deux castella sont visibles encore dans le monde aujourd'hui, l'un à Pompéi, l'autre à Nîmes. Pour obtenir de l'eau, il fallait faire appel à des services. À Rome, c'était le curator aquarum. C'était une sorte de ministre de rang consulaire, il était de rang égal à celui de la nonne, c'était un magistrat très important. Il était à la tête du service des eaux, et ce service était important. Il comprenait plus de 700 personnes. On y trouvait des ouvriers qualifiés, des ouvriers non qualifiés, des surveillants de château d'eau, des stucateurs, des paveurs et des inspecteurs chargés de tous les surveiller. C'est ce service que les particuliers devaient voir pour obtenir un branchement d'eau pour leur villa. À Nîmes, il devait également y avoir un service des eaux, d'une taille certes plus modeste, mais qui permettait lui aussi le branchement direct des riches foyers nîmois qui en faisaient la demande, puisqu'on a retrouvé des robinets dans les fouilles. Attention, tout cela n'était pas gratuit. Les artisans, les riches familles, bien sûr, payaient. Au IIe siècle, la Nîmes gallo-romaine a compté pas moins de 9 établissements de bains publics, dont un aux Halles. L'hygiène était un élément important de la romanité. L'hygiène, pour le bain, mais pas seulement, l'hygiène aussi autour de l'aqueduc. Car une loi interdisait à quiconque de s'approcher des édifices à moins de 1,50 m de chaque côté. Mais plus encore, une ordonnance impériale estimait indispensable qu'il tombe des châteaux d'eau une partie des eaux, car cela servait à purger les rues de la cité. Avec le temps, le débit de l'aqueduc a fini par diminuer et peu à peu finir par être abandonné au 5e siècle ou au début du 6e siècle. Quoi qu'il en soit, ces édifices, ces aqueducs, ont bien été des éléments de la romanisation par justement l'eau qu'ils apportaient, les bienfaits qu'ils permettaient donc d'apporter dans une ville, notamment le développement des bains, des thermes. Mais aussi, il faut bien s'en rendre compte, ces édifices qui coûtent une véritable fortune, puisqu'on estime le coût moyen au kilomètre de 3 500 000 sesterces, alors qu'à la même époque, un ouvrier ne gagnait que 4 sesterces par jour, vous montre bien l'importance de ces édifices. Et surtout, vous ne pouvez construire ces édifices et surtout les maintenir en état que dans un territoire pacifié. Les aqueducs participaient donc pleinement à la romanisation.